Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Il est 7h et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 9 personnes en garde à vue dans l'enquête sur l'agression mortelle de Quentin Derenck à Lyon. Parmi les interpellés, l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. Des inondations sans fin. Après plus d'un mois de pluie, une nouvelle tempête arrive par la Bretagne. La Charente-Maritime en vigilance rouge et de très nombreuses évacuations. Et puis Paris prend une belle option en Ligue des Champions en battant Monaco 3-2, doublé de Désiré Doué.
L'enquête s'accélère donc près d'une semaine après l'agression mortelle de Quentin Derenck.
Ce militant nationaliste tabassé à mort à Lyon la semaine dernière. 9 personnes ont donc été interpellées hier dans différents départements. Elles ont passé la nuit en garde à vue. Julie Brault du service police-justice, c'est vous qui suivez cette enquête pour RMC. Vous êtes en direct de Lyon ce matin. Les enquêteurs ont la quasi-certitude de tenir ceux qui ont porté les coups fatals.
Oui, au total, ce sont 6 suspects, uniquement des hommes âgés d'une vingtaine d'années, qui sont tous soupçonnés d'avoir un lien direct avec les faits qui ont mené à la mort de Quentin Derenck. Après avoir auditionné une quinzaine de témoins, exploité des vidéos et de la téléphonie, les enquêteurs sont désormais persuadés que ces 6 hommes étaient sur place jeudi dernier, à proximité de Sciences Po, lorsque les affrontements ont éclaté. Mais l'implication des uns et des autres reste encore à déterminer, notamment qui a spécifiquement frappé Quentin Derenck, roué de nombreux coups de pied et de poing avant de décéder. À ce stade, une seule chose est sûre, ces 6 suspects sont tous des sympathisants de l'ultra-gauche. Certains ont même été identifiés comme des militants actifs de la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous depuis l'été dernier.
Et Julie, parmi les gardés à vue, il y a donc Jacques-Élie Favreau, assistant du député insoumis Raphaël Arnaud.
Oui, interpellé en Isère à une vingtaine de kilomètres de Lyon, Jacques-Élie Favreau est considéré avec Raphaël Arnaud comme l'un des fondateurs de la Jeune Garde. Militant à gauche de longue date, il était notamment adhérent du syndicat OCGT lorsqu'il étudiait à l'université de Saint-Étienne. Jacques-Élie Favreau est collaborateur parlementaire depuis maintenant un an et demi, très discret sur les réseaux sociaux. Il n'avait jusqu'à présent jamais fait parler de lui. Dans un communiqué envoyé dimanche par le biais de son avocat, il a formellement démenti être responsable de la mort du militant identitaire Quentin Derenck, sans préciser toutefois s'il était présent ou non sur les lieux du drame. Et quoi qu'il en soit, le député insoumis Raphaël Arnaud a annoncé hier soir avoir engagé une procédure pour le licencier.
Les précisions de Julie Brault du service police-justice d'RMC en direct de Lyon ce matin. À Nîmes, un jeune de 17 ans a été interpellé, soupçonné d'avoir renversé et tué un petit garçon de 8 ans sur le chemin de l'école hier. Il conduisait sans permis. Vous entendrez le choc des habitants du quartier dans le journal de 8h.
Il est 7h03 sur RMC et il n'a jamais plu pendant aussi longtemps en France.
35 jours de pluie consécutifs et pas d'accalmie à l'horizon. Au contraire, une nouvelle tempête arrive par la Bretagne, la tempête Pedro. 9 départements sont aujourd'hui en vigilance orange. Il y en a désormais 4 en rouge. Le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot et Garonne et la Charente-Maritime. C'est dans ce département qu'est attendu le ministre de la Transition écologique ce matin à Saintes, où de nombreuses évacuations ont eu lieu, y compris dans la prison. C'est aussi une centaine de maisons qui ont été évacuées hier, Inès Zegloul.
Allez, prends, viens moi.
Un énième salon, une énième cuisine où il faut sauver les meubles.
Attends.
Sourire nerveux de Charlotte, c'est le système D, dit-elle.
On est en train de monter un frigo rempli, on les surélève pour les mettre en sécurité.
Une course contre la montre pour ces équipes municipales. À la cave, l'eau monte, continue de grignoter quelques centimètres.
L'eau va bientôt arriver dans sa maison. Pour l'instant, la dame souhaite dormir chez elle, c'est très angoissant.
Et à quelques pas d'ici, nouvel appel pour les bénévoles venus en renfort, nouvelle urgence.
Récupérer une famille sinistrée qui a été évacuée en barque de son domicile.
Je voulais pas quitter l'appart, mais on n'a pas le choix. Donc j'ai des chats et tout à la maison, et le problème c'est que je m'inquiète vraiment pour eux. Ça monte et il faut partir.
Pas le choix, se désole Samuel, responsable à la Croix-Rouge.
Nous maintenant on a des domiciles qui sont sous 1m50 d'eau et où l'évacuation elle est plus qu'importante, et surtout en cas de problème de pouvoir avoir une proximité plus rapide.
Pour ce faire, un centre d'urgence est ouvert à quelques kilomètres de là, une cellule d'aide psychologique est mise à disposition des sinistrés.
L'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, salue les progrès significatifs dans les discussions entre Ukrainiens et Russes à Genève, en Suisse. Les pourparlers doivent reprendre aujourd'hui. Il est 7h04 sur RMC. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prend une bonne option pour les qualifications en 8e. Victoire 3-2 hier en barrage contre Monaco, au terme d'une soirée compliquée pour le champion en titre Arthur Perrault.
Puis mené 2-0, le PSG a totalement inversé la tendance avec une prestation XXL de Désiré Doué. Deux buts et une passe décisive, l'attaquant, pointé du doigt la semaine dernière pour sa prestation mitigée à Rennes, a répondu présent, le capitaine Marquinhos.
On est tous contents pour lui. Je pense que c'est la meilleure des façons de toujours travailler. C'est un super gamin, c'est un super joueur. On sait de sa qualité qu'il a. Et il a commencé sur le banc, il a rentré avec une bonne mentalité. Il a été très décisif et ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça.
Seul point noir de la soirée, la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé. Gêné au mollet à la veille du match, le Ballon d'Or a finalement débuté cette rencontre comme titulaire. L'entraîneur Luis Enrique justifie ce choix.
C'est le football, c'est normal. On cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. Aucun risque. Il a fait l'entraînement normal et c'est en coupe pendant les premiers 15 minutes et on a fait ce que nous pouvons faire.
À Paris de confirmer et définitivement valider sa qualification en 8e de finale mercredi prochain lors du match retour au Parc des Princes.
Arthur Perrault.
Et puis on part aux Jeux Olympiques d'hiver.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Milan Cortina, où l'équipe de France a encore brillé en biathlon.
Ouais, nouvel exploit des Bleus qui remportent l'or pour la toute première fois sur le relais masculin. 16e médaille au compteur, record battu. Un titre qui propulse Quentin Fillon-Maillet comme sportif le plus médaillé aux Jeux d'hiver, Maria Azé.
Dans la fan zone de Saint-Laurent en Grandvaux, à 700 km d'Antol, son célèbre Quentin Fillon-Maillet.
2026 pour Quentin, c'est une très belle année. Il vient d'annoncer qu'il va être papa avec sa compagne Lydie. On est heureux pour eux.
Il y a même sa grand-mère qui le regarde, elle va avoir 100 ans à Saint-Laurent là. Ben, elle en revient pas la grand-mère. Je lui dis, tu vois, Quentin, il est costaud, il est comme toi.
Pendant qu'en Italie, le Jurassien reçoit sa médaille d'or des mains de Martin Fourcade. Hélène, la maman.
5 en or et 3 en argent. 8 médailles olympiques en tout. Sur 2 Olympiades.
Fillon-Maillet devient l'athlète français le plus médaillé aux Jeux d'hiver devant Fourcade, venu féliciter la famille après la course.
Bravo, félicitations.
Jason, le petit frère.
Et c'est fabuleux, quoi. On a du mal à se rendre compte de l'exploit que c'est.
5 médailles d'or, c'est autant que Teddy Riner.
Même pas Marès, mais pas le même gabarit, exactement.
Hein. L'octuple médaillé olympique a encore du mal à réaliser.
Avec 2 médailles d'or, c'était objectif plus que réussi. Concrétiser une 3e médaille d'or, c'est incroyable.
Fourcade garde le record sur le nombre de titres olympique avec 6 médailles d'or. Quentin Fillon-Maillet pourra tenter de l'égaler vendredi sur la Mastart.
Et puis autour des femmes, de faire aussi bien cet après-midi, elles feront le relais féminin à 14h45.
Et on les encourage évidemment. C'était le journal de Clara Guébillet. Et justement, la ministre des Sports est avec nous, Marine Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Les JO qui se terminent dimanche, mais on fait déjà un premier bilan avec vous. 16 récompenses, un magnifique titre en biathlon donc par équipe hier. On peut même viser encore plus haut, c'est ce que vous nous direz dans un instant. Et puis je vous attends, vous, au 32-16. Venez donc vous réjouir avec nous. Chantez la Marseillaise, qui sait. Et puis dites-nous donc si vous suivez ces épreuves et ce que vous en attendez encore. Il est 7h08, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
L'équipe de France, championne olympique du relais masculin. Éric Perrault franchit la ligne en vainqueur avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet qui se rue sur lui. Emilien Jacquelin.
La France bat son record de médailles pour les JO d'hiver. 16 médailles, 5 en or, 7 en argent, 4 en bronze. Les Jeux qui se terminent donc dimanche en Italie. La France peut même encore viser plus haut. Voilà votre parti pris ce matin, Marina Ferri. Bonjour. Vous êtes la ministre des Sports. Une ministre satisfaite, j'imagine.
Une ministre heureuse, absolument, comme tous les Français. D'ailleurs, c'est vrai que ce record déjà de 16 médailles est incroyable. C'est le fruit aussi d'un travail de longue haleine que nous menons depuis 2019 au service de la performance française. On a entamé ce travail en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et on le poursuit avec beaucoup d'attention pour nos athlètes, pour leur accompagnement. Et puis, vous l'avez dit, dans les jours à venir, nous attendons encore des médailles. On s'était fixé un objectif, plus 50% de médailles par rapport aux précédents Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.
21,
si mes calculs sont bons. Voilà,
ça ferait 21,
voilà.
C'est possible ?
Oui, c'est possible. On a encore des bonnes chances de médailles.
Alors, on a quand même une dépendance au biathlon, quand même, un peu, non ?
Alors on va pas dire une dépendance, je crois que c'est aussi de bon augure de voir qu'aujourd'hui les sports nordiques, ski de fond et biathlon, parce que vous avez vu qu'on a eu des médailles aussi historiques en ski de fond, voilà, qui c'est vrai que ces disciplines nordiques elles ont pris le lead aujourd'hui sur les disciplines d'hiver. On a eu quand même des très belles surprises en alpin, parce que Romanoli, vous savez, qui a ramené cette médaille d'argent. On n'avait pas eu de médaille en ski alpin féminin depuis 24 ans, donc c'était aussi une belle histoire du sport français.
Et justement, le ski alpin, on a l'impression que quand même là-dessus, sur le ski et sur le snowboard, il y a eu quelques déceptions. Comment vous les expliquez ça?
C'est le sport, malheureusement. Voilà, c'est une compétition. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous le savez, c'est une grande intensité. Donc on peut avoir des déceptions, mais il y a aussi des belles surprises. Il y a des 4e ou 5e places qui augurent de très belles choses pour l'avenir. Notamment, je pense à Nils Allègre. Voilà, donc passer le moment de la déception, c'est vrai qu'on voit derrière qu'on a des beaux champions qui sont nés et qui augurent de belles choses dès qu'on aura des Jeux bientôt à la maison.
Ce seront pour vous aussi des champions qui vont durer.
Absolument, oui, on s'inscrit d'ailleurs dans l'accompagnement que nous faisons dans la haute performance aujourd'hui. On s'inscrit dans le temps long puisqu'on est passé d'une Olympiade aujourd'hui avec notre plan Ambition Bleue à 2 Olympiades. On travaille déjà sur Brisbane 2032. Vous voyez, donc c'est vraiment un accompagnement dans la durée.
Vous avez dit, Madame la Ministre, surtout qu'on va ramener les Jeux à la maison.
Absolument.
Vous y croyez encore, vous ?
Mais bien sûr que j'y crois encore.
Mais est-ce que c'est pas le moment de lâcher l'affaire ?
Ah, surtout pas, on va pas lâcher l'affaire.
Non, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lâché l'affaire. Il y a eu quand même des démissions en cascade pour effectivement les Jeux 2030 dans les Alpes françaises. Quand même, le président du comité d'organisation, Edgar Gompion, est-ce qu'il peut rester après toutes ces démissions en cascade? Et est-ce que vous y croyez encore comme si tout allait bien?
Alors bien sûr, parce que déjà, on voit toujours ce qui ne va pas. C'est vrai qu'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques, créer un COJOP, un comité d'organisation, c'est une grosse machine. On aura plus de 2000 salariés, vous le savez, par la suite. Et quand on regarde dans l'histoire des Jeux, de l'Olympisme, malheureusement, dans la mise en œuvre des comités d'organisation, on est dans l'humain. Et donc, il peut y avoir des départs. Donc c'est vrai que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines, parce qu'on voyait, il y avait cette inquiétude. Donc faut pas cacher aujourd'hui les difficultés qui sont celles qui existent dans le comité d'organisation, mais c'est des difficultés humaines. En revanche, le travail technique, il a bien progressé. Ce dossier, il est sur les rails. On n'avait pas de loi olympique il y a quelques temps. Nous avons une loi olympique. Nous avons des budgets aujourd'hui, à la fois pour le comité d'organisation, mais également pour la Solideo, c'est qui doit livrer les infrastructures. Et puis nous avons tous nos comités qui ont été mis en place, notre charte sociale environnementale, notre comité stratégique environnemental. Donc j'ai envie de dire que toute la structure est bien posée aujourd'hui. Et maintenant, il faut qu'on remette de l'ordre dans la gouvernance.
Avec une fragilité sur cette loi, vous évoquez cette loi olympique. Alors certes, elle a été adoptée par le Parlement au début du mois, le 5 février, mais elle est contestée par des députés, et notamment les députés écologistes et la France insoumise. Ils ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous êtes sûr que ça passe ?
Moi, j'ai pas d'inquiétude parce qu'en fait, on est sur les mêmes dispositifs que ce que nous avions voté pour Paris 2024. Donc à l'époque, avec les mêmes recours. Et vous le savez, malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à des anti-jeux olympiques ou paralympiques. On voit, vous avez cité les mouvements politiques qui sont derrière. Et donc, on avait eu le même type de recours sur Paris, avec le succès que l'on connaît. Donc, j'ai pas de grosses inquiétudes aujourd'hui concernant la préparation
des anti-jeux pour vous.
Oui, ce sont des anti-jeux.
La France insoumise et Europe
absolument,
et
oui, oui. Ce sont des anti-jeux. Oui, oui, je l'assume.
Je voudrais qu'on accueille Arnaud, parce que Arnaud, c'est un grand plaisir de vous avoir en ligne. Vous nous aviez appelé déjà il y a une semaine, auditeur d'RMC, dont le frère concourt pour ces Jeux Olympiques. Arnaud, votre frère bobsleigh, c'est quand? C'est ce week-end?
Oui, bonjour Apolline. Ouais. Alors oui, c'est ce week-end, oui, c'est les deux derniers jours, hein, comme on dit, le meilleur pour la fin, en tout cas de mon côté. mais il passe samedi du coup à 10h la première manche, midi la seconde manche, et la même chose le dimanche, il y a quatre manches en bob, et du coup il passe les deux derniers jours.
Donc vous allez regarder ça depuis, vous êtes à Amiens, c'est ça, professeur de PS vous-même?
C'est ça, exactement. Ouais. Je vais regarder à la télé tranquillement avec la famille.
Vous vibrez, vous faites comme tout le monde là, vous vibrez mais plus fort évidemment que les autres.
Mais oui, c'est exactement ça. Alors après, les chances de médaille, forcément, ils sont beaucoup moindres par rapport à ce qui s'était passé. Mais déjà très fier de le voir et voir ce qu'il peut réaliser.
C'est magnifique parce que c'est effectivement toute une famille qui est derrière. On entendait aussi dans le reportage tout à l'heure, c'est à chaque fois des familles derrière. Et là, en l'occurrence, c'est la famille RMC, donc c'est encore plus un plaisir.
C'est toute une famille et tout un pays parce que les Français vibrent. Et quand je vois les taux d'audience aujourd'hui, ou même les discussions qu'on peut avoir, ça fait du bien de voir nos Bleus gagner. Voilà, c'est une belle équipe de France. Donc on sera derrière votre frère, bien évidemment.
On sera derrière votre frère Arnaud, et justement vous y serez ce week-end, hein, Marina Ferrin.
Oui, avec le Premier ministre, nous serons présents pour la clôture de ces Jeux Olympiques. Puis, nous serons à Albertville le 23, puisque vous savez que le drapeau olympique va revenir à Albertville, va revenir en France, pour préparer justement les Alpes françaises 2030. Ça sera un beau moment aussi, puisque vous savez que le dernier territoire olympique pour des Jeux d'hiver, c'était Albertville, donc c'est un beau message aussi, puisqu'on capitalise sur l'héritage de 92 pour se projeter vers les Alpes 2030.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Effectivement, vous réjouir avec nous, Marina Ferrari, vous êtes la ministre des Sports. Merci à Arnaud. On va vibrer avec vous, puis on vous rappellera peut-être lundi. Hein, Arnaud, pour avoir partagé pour avoir partagé ça avec nous, les JO d'hiver de Milan Cortina, c'est à suivre évidemment sur RMC, radio officielle de ces Jeux, et c'est jusqu'à dimanche. Il est 7h17, dans un instant on va remonter le temps. Avec vous, Arthur Chevalier, bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le favori des sondages pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, ne connaît pas le prix d'un abonnement au transport, une bourde qui vous en a rappelé d'autres.
Et oui, d'ailleurs, c'était sur RMC, une ministre du Travail incapable de dire combien de fois on pouvait renouveler un CDD. Et pourtant, à une époque, nos politiques n'étaient pas du tout déconnectées de la vie réelle.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est l'ancien président de la République, député socialiste aujourd'hui, François Hollande. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, il est 7h18.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h19 et c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque matin, avec notre historien maison, Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur.
Rebonjour.
Une bourde de plus sur les prix des transports en commun, après Sarah Knafo il y a 10 jours. C'est au tour de Jean-Michel Aulas de se prendre les pieds dans le tapis, le favori des sondages pour l'élection municipale à Lyon. C'est lui aussi trompé sur le coût d'un abonnement au transport lyonnais.
De l'ordre de 50 euros par mois. Voilà ce qu'a répondu Jean-Michel Aulas quand on lui a demandé le prix d'un abonnement. Pas de chance, c'est 74 euros, une sacrée diff. C'était pas beaucoup mieux pour le prix du ticket à l'unité. Aulas estimait ce prix à 1,80 €. En fait, c'est 2,10 €.
Pourquoi les politiques sont incapables de connaître le prix des choses aussi basiques ?
D'abord parce que, a priori, ils ont perdu l'habitude de faire leurs courses eux-mêmes ou de payer certaines choses eux-mêmes. Et s'il y en a bien un à qui ça ne serait jamais arrivé, c'est le général de Gaulle, puisque même quand il était président, il voulait connaître le prix de toutes les choses. Sa femme, Yvonne de Gaulle, allait tous les week-ends au marché de Chaumont, dans le département de la Haute-Marne, où les de Gaulle avaient leur maison de campagne. Et quand elle rentrait, qu'est-ce que faisait le général ? Eh bien, il lui demandait combien elle avait payé l'huile, le beurre, le pain. C'était tout simplement une façon de connaître le quotidien des Français et de ne pas être déconnecté.
Donc avant, les hommes politiques connaissaient les prix.
Ou en tout cas, ils faisaient nettement mieux semblant de les connaître. Et le jeu, c'était justement de se piéger sur ce genre de questions. En 1974, dans le débat pour l'élection présidentielle, Mitterrand embarque son opposant Giscard d'Estaing sur le prix du litre d'huile d'olive que paye la ménagère. C'est son expression. Giscard fait semblant de suivre, il se perd et il contre-attaque en demandant à Mitterrand s'il connaît le prix d'un ticket de métro. Mitterrand sèche, mais il se justifie comme il peut en disant « Je ne prends pas le métro, je prends ma voiture ». Pas sûr qu'aujourd'hui ça passerait.
D'un autre côté, est-ce qu'on attend vraiment d'eux qui connaissent absolument ce genre de choses ?
Vous avez raison Apolline, mais parfois ça concerne aussi leur domaine de compétence.
Évidemment.
Et là c'est beaucoup plus gênant. En 2015, Myriam El Khomri, ministre du Travail de François Hollande, elle est sur RMC, interviewée par Jean-Jacques Bourdin, qui lui demande combien de fois on peut renouveler un CDD. Voilà ce qu'elle répond.
Il peut être renouvelé plusieurs fois.
Combien de fois ? Maximum ?
Je ne pourrais pas vous le dire.
Voilà, pour le ministre du Travail, c'était quand même très 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 gênant.
Extrêmement gênant. Alain Juppé n'était pas mauvais non plus dans son genre.
Et oui, nous sommes en 2016. À l'époque, Alain Juppé, le favori des sondages pour être le candidat de la droite à la présidentielle. Mais il avait une image un peu froide, un peu snob. Donc l'enjeu pour lui, c'était de montrer qu'il était un peu proche des gens. Alors qu'il est interviewé sur la question du revenu universel, il répond... Est-ce que tout le monde va le toucher ? De Madame Bettencourt à la vendeuse de Prise Unique. Sauf que, pas de chance, Prise Unique, c'est une enseigne qui n'existait plus depuis 15 ans. Donc pour l'après-vie, on repassera à Pauline.
Exactement. Et puis on se souvient du prix du pain au chocolat. Jean-François Copé.
Copé, demandé
10 centimes.
10 centimes, il avait répondu. C'est vrai que dans ces cas-là, on en mangerait plus. Merci Arthur Chevalier. À tout moment, vous pouvez réécouter les chroniques d'Arthur. Vous pouvez même vous en faire 10 à la suite. Et c'est sur le site rmc.fr ou sur l'application. C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Et Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, ce sera l'ancien président de la République, François Hollande.
Oh, bah ça va être une ambiance plus cool qu'hier. Il est plus relax que Marion Maréchal, François Hollande, hein ? Puis j'avais peur qu'il vous dégaine un insoumis ce matin. Je me suis dit, la pauvre Apolline, ils vont lui coller Mathilde Panot, histoire de l'achever. Après, il y aura un débat entre Panot et Maréchal en juste au corps dans la boue, avec Ercilia Soudet et Nadine Morano aux commentaires. La pauvre. Parce que c'est la guerre là entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donald Trump a annoncé qu'il réglerait le conflit en moins de 24 heures.
Ah oui.
D'ailleurs, le porte-avions Abraham Lincoln remonte actuellement la Seine. Il surveille plus l'Iran là. Hein. Il surveille le QG des Insoumis. Bah, vous me direz, la différence n'est pas énorme non plus. Et Trump va enlever Mathilde Panot comme Maduro. Et une heure plus tard, il va nous la rendre en disant oh, pff, oh. Même les forces spéciales, elles en ont marre. Elles crient trop, reprenez-la, on en veut plus. Je me demande si Hollande a des milices lui aussi. Comme à l'extrême droite et l'extrême gauche. Je vous lui demanderai, tiens, François Hollande, Est-ce que vous avez des groupuscules?
Les groupuscules sur la fesse gauche, oui.
Non, non.
C'est Julie qui vous l'a dit.
Ce serait rigolo des milices de hollandistes, ceci dit, qui rentrent dans les boulangeries en gueulant « Donnez-moi 50 croissants, faut que j'aille voir mes meufs !» C'est à peu près l'extrême hollandisme. Quoi. François Hollande va-t-il se présenter à la présidentielle? Sa candidature est de plus en plus probable, et c'est vrai, on meurt de nostalgie. Hein, parce qu'on a tous des vieux mauvais souvenirs de la présidence Hollande. Eh ben, ce sera l'occasion de se faire des mauvais souvenirs tout neufs. Voilà. Je vous l'ai jamais dit, mais avant la radio, je travaillais dans la pub. Vous saviez ça?
Non, j'étais, je savais
publicitaire
pas.
Avant, et j'étais une sorte de Jacques Séguéla.
C'est
mais
vos lunettes, vos lunettes de pubard.
Avec
peut-être.
Mes lunettes de pubard, ouais, exactement. J'avais un catogan et tout. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai.
Le catogan aussi?
Ouais, je l'ai eu. Je vous sortirai des photos dossiers un jour. Donc, j'ai planché sur un slogan de campagne pour François Hollande. Alors, j'ai pensé à « Notre pays a besoin d'apaisement, je serai votre somnifère ».
Ah non, oui, c'est bon, c'est un
mauvais. J'ai hésité avec « De la croissance pour les Français et des croissants pour la Gaillette ». J'ai éliminé.
Oh, c'est bien, ça.
Et puis surtout, vous interrogerez François Hollande sur le gros dossier, les inondations en ce moment. Pourquoi il nous inflige ça, l'homme qui fait pleuvoir? « Oh, prince de la pluie, vois ton peuple souffrir !» Miséricorde, François. Il veut pas se calmer un peu. Il fait ça pourquoi? C'est pour nous menacer. C'est si vous m'élisez pas président, je vous noie tous. C'est pas cool. Hein. Si vous nous écoutez en Gironde, coupez la radio, bande de fous. Il va pleuvoir dans la maison. Allez, rendez-vous pour l'inondation du studio à 8h30, dégâts des eaux à 8h40.
Arnaud Demange pour notre plus grand plaisir tous les jours, 7h20 et 8h20.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h25. Dans un instant, ce sera évidemment la météo et le journal. Juste après le journal, 9 interpellations donc hier soir après la mort de Quentin Derenque à Lyon. Plusieurs proches du mouvement antifasciste La Jeune Garde, lui-même proche d'LFI. Comment en est-on arrivé là? Réponse avec l'historien spécialiste des extrémismes, Christophe Bourseiller à 7h40. Vos réactions aussi au 32-16. Est-ce que vous estimez que le député LFI peut continuer à siéger, Raphaël Arnaud? Est-ce que LFI est désormais clairement d'extrême gauche? Vos réactions au 32-16 et puis à 7h50. Notre voix de droite, l'ancien député UMP, Jérôme Lavrieux, qui lance un cri d'alerte. Nous sommes en train de nous faire voler les municipales. Voilà ce qu'il nous dira. Je vous attends évidemment au 32-16. 7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz, bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des crues exceptionnelles et des évacuations par centaines. L'ouest de la France n'en a pas fini avec les inondations. Nous serons en Gironde où certains habitants ont déjà pu constater l'ampleur des dégâts. 9 personnes, dont un assistant parlementaire LFI, en garde à vue après la mort de Quentin Derenque à Lyon. L'affaire embrase l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu appelle la France insoumise à faire le ménage dans ses rangs. Et cette info, RMC, Habib Bey devrait endosser bel et bien le costume d'entraîneur de l'OM. Le propriétaire du club, Franck McCourt, l'a annoncé hier à ses joueurs et à ses supporters.
Il n'en finit plus de pleuvoir sur la France.
35 jours de précipitations de suite, un record, cela ne devrait pas s'arranger. Hein. La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, maintenus en vigilance rouge ce matin. Grande inquiétude donc pour les sinistrés des inondations en Gironde. Le niveau de la Garonne pourrait commencer à remonter dès aujourd'hui selon Vigicru. Et à la Réole, Pierre Bourgès, les habitants ont profité d'une accalmie temporaire pour constater les dégâts.
C'est la première fois que Pascal revient chez lui depuis vendredi.
Attendez, je vais ouvrir pour y voir un peu.
Le niveau de l'eau a baissé de 80 cm, alors il profite de cette accalmie pour constater les premiers dégâts.
Tous les parquets flottants qu'il y avait, tout ça, tout est mort. Là, les cuisines encastrées, bon, c'est plus la peine d'y penser. Ça fait mal. Quand on va nettoyer, j'ai bien peur qu'on soit surpris plus qu'on ne le pense.
Mais pas question de nettoyer toute la boue sur le plancher maintenant, car de nouvelles pluies sont annoncées ces prochaines heures. Il vient pour rehausser encore un peu quelques affaires.
Il faut juste espérer, parce qu'elle va remonter, que le niveau il soit pas trop haut. Là, j'essaie de pas y penser.
À quelques kilomètres, à Bourdelle, Nathalie attend son frère qui a emprunté une barque pour préparer sa maison à cette nouvelle crue.
C'est monté très haut ?
Un beau chantier.
Ouais. Donc là, si jamais il y a une autre crue, tout est en sécurité.
Oui.
Il reste encore plus d'1,50 m d'eau dans la maison.
J'ai remonté l'électroménager, machine à laver, frigo, sèche-linge, congélateur. J'ai peur que ça fasse plus que ce qu'il y a eu actuellement.
Le niveau de l'eau devrait continuer de monter toute la journée avant d'atteindre son pic demain.
Le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, est attendu ce matin à Saintes, en Charente-Maritime. 9 autres départements, vigilance orange du Finistère au Tarn-et-Garonne. L'addition commence à tomber après le passage de la tempête Niels. 250 000 sinistrés, près d'un milliard d'euros de dégâts, chiffre de la Caisse centrale de réassurance. 4 jours après la mort de Quentin Derenque à Lyon, 9 suspects ont été interpellés dans différents départements. 6 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir passé à tabac ce militant nationaliste de 23 ans la semaine dernière à Lyon. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, qui a engagé une procédure de licenciement. La mort de Quentin s'est également invitée à l'Assemblée nationale. Thomas Becker, du service politique des RMC, vous y avez assisté. La minute de silence a vite fait place à un vif échange entre le Premier ministre et Mathilde Panot.
Oui, le Premier ministre à l'offensive est suivi par la plupart des députés. Sur tous les bancs, les insoumis sont ciblés. Le socialiste Jérôme Guedj estime même qu'il porte une responsabilité politique vis-à-vis de l'explosion de la violence.
Quand on assume cette conflictualisation, cette désignation, cette stigmatisation, cette tension permanente, c'est Frankenstein, vous savez. C'est le monstre qui est créé par le savant fou et ça lui échappe à un moment donné et ça se retourne contre lui.
Pour le député Horizon Frédéric Valtoux, LFI devrait s'inspirer du conseil de Sébastien Lecornu.
Si vous voulez rester une force d'enchant républicain, eh ben faut faire le ménage dans les idées, dans la manière de faire et surtout dans les personnages que l'on investit.
En appelant les insoumis à faire le tri parmi ses membres, le Premier ministre déclenche surtout la colère de Jean-Luc Mélenchon qui lui répond hier soir.
Nous n'acceptons pas les leçons que nous donne monsieur le Premier ministre qui visiblement a pété un câble cet après-midi. Mathilde Panot n'est pas la personne qui fait le ménage chez les insoumis.
Et il répète que les insoumis n'ont aucune responsabilité dans la mort de Quentin Derenque.
Et le gouvernement serre la vis et veut limiter certains meetings politiques dans les facs, comme celui de Rima Hassan. Une circulaire a été envoyée aux recteurs et aux préfets. RMC 7h34, les nuisibles de plus en plus présents dans nos logements, guêpes, moustiques, tigres, souris, les infestations ont doublé en 5 ans selon une étude Ipsos BVA que l'on vous révèle en exclusivité avec BFM TV. Plus de 6 Français sur 10 en ont été touchés avec des impacts sur le sommeil et le moral, Célestin Bougère.
Son matériel à la main, Jonathan se présente à la porte de cet appartement infesté.
Alors dites-moi tout, madame, qu'est-ce qui se passe ?
Affalé, souris. Depuis que ma fille est rentrée après Noël, elle dort plus.
C'est la deuxième fois en un an et demi que la fille de Jeannette est envahie de souris.
Elle s'endort parfois à 4, 5, 6 heures du matin. Elle dort même plus à la maison en ce moment, elle dort chez des amis. Ou elle fait venir les amis en nombre pour faire plus nombreux que les souris.
Jonathan se baisse pour regarder sous les meubles dans la cuisine.
Il y a beaucoup de petites crottes en dessous, là, il y en a plein.
Le technicien a repéré un grand trou où les souris se faufilent, c'est à cet endroit qu'il va appliquer du poison.
Le précédent technicien avait mis du racumin, je vais faire exactement la même chose.
D'accord.
Et ensuite, je vais vous conseiller de faire au plus vite, de reboucher ce point de passage-là si c'est possible.
Ouais. En 5 ans, le nombre d'infestations de rongeurs a plus que doublé, ça augmente aussi pour les guêpes et les punaises de lit, comme l'explique Nicolas Roux de Bézieux, fondateur de Bad Bugs, à l'origine de cette étude.
L'élément essentiel, c'est bien sûr le réchauffement climatique. Plus il va faire chaud, plus c'est facile pour les espèces de s'installer. Moins les hivers sont rudes, moins on fait baisser la population pendant l'hiver.
Et les interventions à domicile coûte cher. En moyenne, un particulier doit débourser 570 euros pour éradiquer complètement ces nuisibles.
Et la dette frappe les jeunes de moins de 30 ans. 17 000 dossiers déposés l'année dernière, une hausse de 30% en un an et même 65% pour les 18-25 ans. Mini-crédit et paiement fractionné transforment l'emprunt facile en piège, alerte la Banque de France. Le PSG prend l'avantage sur Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions. Victoire 3 buts à 2 hier soir. Match retour mercredi prochain au Parc des Princes. Barrage entaché par des propos racistes à l'encontre de Vinicius lors du match Benfica-Real Madrid.
Et puis cette info RMC à présent, l'arrivée de Habib Bey sur le banc de l'OM se précise.
Le propriétaire du club, Franck McCourt, était à Marseille hier matin. Objectif, convaincre le directeur sportif démissionnaire Mehdi Benatia de rester à son poste jusqu'à la fin de saison. Et surtout, annoncer aux joueurs la probable arrivée d'Habib Bey comme entraîneur, Clément Brossard.
Oui, accompagné de Mehdi Benatia, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, a rencontré hier les joueurs et les supporters. Et c'est aux fans marseillais qu'ils ont annoncé, selon nos informations, l'arrivée probable et imminente d'Habib Bey comme nouvel entraîneur. L'ancien joueur et capitaine de l'OM connaît parfaitement le contexte et l'environnement marseillais et se dit prêt à relever le défi d'une mission qu'il sait de courte durée. Mais tout n'est pas encore ficelé, car l'entraîneur n'est toujours pas libéré de son contrat avec le Stade Rennais, qui a pourtant déjà trouvé son successeur en la personne de Franck Haise. Les deux parties ne sont pas parvenues à trouver hier après-midi un accord devant la commission commission juridique de la Ligue de football professionnel. Le club breton a jusqu'au 12 mars pour envoyer la lettre de rupture de contrat au principal intéressé. Sans celle-ci, Habib Bey ne peut pas juridiquement rejoindre l'OM. Une situation actuelle qui embarrasse le club marseillais.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 13h55.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 3, Kauna, son outsider, et le 4, Watch Him.
C'était le journal de Clément Guizzi, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Sept hommes et deux femmes sont en garde à vue après la mort de Quentin Derenck à Lyon ce week-end. Parmi eux, l'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud. Bonjour Christophe Bourseiller.
Bonjour Apolline.
Vous êtes historien, vous êtes spécialiste des extrémismes, les violences d'extrême droite, d'extrême gauche qui ne sont pas nouvelles. On va essayer de comprendre d'où ça vient et comment on en est arrivé là. Où en est la violence politique aujourd'hui? Vous nous le dites dans un instant. Je vous attends aussi au 32-16. N'hésitez pas à venir réagir. J'attends évidemment vos témoignages, vos réactions. 32-16 ou le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. 7h38, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Après la mort de Quentin Derenck à Lyon, l'étau se resserre autour de la Jeune Garde et de LFI. 9 personnes toujours en garde à vue ce matin, dont l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Au moins un des interpellés est mis en cause pour homicide. Bonjour Christophe Bourseiller.
Bonjour.
Vous êtes historien et vous êtes président de l'Observatoire des extrémismes. Est-ce que ces interpellations de membres de l'ultra-gauche vous surprend, vous qui observez ce monde-là depuis longtemps?
Non, ce qui arrive là était fatal et c'est triste à dire. Alors c'est vrai qu'il y a depuis longtemps, dans plusieurs villes de France, une espèce de guéguerre entre d'un côté des militants d'extrême droite venus de divers sigles et puis de l'autre côté des militants d'extrême gauche antifa, donc particulièrement radicalisés. Et cette guéguerre dure depuis des années et des années. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années de la mort d'un antifa qui s'appelait Clément Méric à Paris. C'était un scénario qui était relativement proche, enfin, des rixes, des bagarres, le week-end, généralement dans des périodes comme ça, en fin de semaine, ou parce qu'on ne travaille pas et on passe le week-end à se bagarrer. Et c'est ce qui est arrivé à Lyon.
Et c'est ce qui, à ce moment-là, dégénère, effectivement, et il y a un mort, Quentin Derenck. Là, est-ce que la présence d'une personne qui est, au fond, dans les institutions, c'est-à-dire que l'une des personnes qui a été interpellée, parmi ceux dont on considère qu'ils ont eu un rôle dans la mort de ce jeune homme, il est salarié de l'Assemblée nationale. Il est assistant parlementaire d'un député LFI. C'est-à-dire, au fond, la question que je voudrais vous poser, c'est ce qui a jusqu'alors été en marge, en quelque sorte, des institutions. Est-ce que pour vous, c'est quand même un basculement, le fait qu'un membre fondateur de ces groupuscules ait été adoubé par LFI, puis élu à l'Assemblée nationale?
Alors, ce qui est particulier, c'est l'histoire de la Jeune Garde antifasciste, parce que la Jeune Garde antifasciste a été créée, dont fait partie Jacques-Élie Favreau, dont fait partie Raphaël Arnaud, il est le fondateur, a été créée en 2018.
Jacques-Élie Favreau, c'est l'assistant parlementaire qui est en garde à vue.
Qui est pour l'instant, simplement, en garde à vue, bien entendu, il n'est pas mis en examen. En fait, en 2018, cette Jeune Garde antifasciste se crée dans la mouvance du nouveau parti anticapitaliste, et c'est un mouvement donc d'obédience plutôt trotskiste, pour être précis, et qui pratique un antifascisme radical, mais néanmoins, alors si je veux dire entre guillemets, relativement pondéré. C'est-à-dire qu'il existe à Lyon des groupes encore plus radicaux, et d'ailleurs qui vont s'en prendre à la Jeune Garde antifasciste à plusieurs reprises, en les traitant de mollassons, parce que justement, ils s'allient avec des partis plus modérés. Là-dessus, Raphaël Arnaud, c'est quand même une ligue un peu paramilitaire, cette Jeune Garde antifasciste.
C'est ça, vous diriez que c'est comme des ligues.
Raphaël Arnaud va se présenter aux élections sous les couleurs du NPA, il ne va pas être élu, et puis il va passer un accord avec la France insoumise. Et là, il y a un accord indéniable, un accord politique. En 2025, Jean-Luc Mélenchon prend la parole et dit « Nous sommes alliés à la Jeune Garde antifasciste ». C'est ainsi. Or, ce qui est visible, c'est que Raphaël Arnaud, qui maintenant peut-être s'est éloigné de cet univers lyonnais puisqu'il est à l'Assemblée nationale, ne tient pas ses troupes. Et ce qui s'est passé là, probablement, c'est qu'il y a eu des débordements, je ne suis pas sûr, mais des débordements commis par, et pire que ça, un crime, commis peut-être par des membres ou des sympathisants de cette Jeune Garde antifasciste,
qui d'ailleurs a été dit par ailleurs. Le mot, en effet,
le mot homicide est celui qui a été retenu par les enquêteurs. C'est donc en effet un meurtre. Ça n'est pas homicide involontaire, ça a pu l'être parfois. Vous dites qu'il ne tient pas ses troupes. Nos confrères de Quotidien ont démontré hier que lors de l'université d'été de cet été, c'est-à-dire de 2025, alors que la jeune garde avait déjà été dissoute, Raphaël Arnaud parlait de la jeune garde en disant « on », en disant « nous », et qu'un stand de la jeune garde, alors officiellement un stand de soutien à la jeune garde, était bien présent lors de l'université d'été d'LFI. Ça veut dire que même une fois dissoute, cette ligue, comme vous dites, était toujours dans le giron d'LFI.
Mais absolument. D'ailleurs, il faut bien préciser que cette ligue a donc été dissoute. Elle a déposé un recours. Alors, à mon avis, elle risque pas de que ça m'étonnerait que la dissolution soit levée. Mais d'ores et déjà a été créée une nouvelle structure qui s'appelle Génération Antifasciste. Éteignons la flamme. Donc dès aujourd'hui,
elle renaît
d'une autre appellation. Elle a déjà prévu sa dissolution en se recréant par avance. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc vous voyez, on est là dans quelque chose de très organisé, mais par contre, évidemment, ce qui n'est pas organisé, c'est cette rixe épouvantable qui débouche sur la mort d'un homme.
Rixe en effet à Lyon. Est-ce que vous pouvez juste nous parler du contexte de Lyon ?
Alors oui, Lyon est une ville un peu particulière parce que Lyon fait partie, avec Nice peut-être, des bastions historiques de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'à Lyon, depuis très longtemps, il y a des groupes d'extrême droite activistes très puissants. Alors on se souvient il y a très longtemps d'un groupe qui s'appelait Jeune Nation, qui était une ressucée d'un groupe encore plus ancien. Il y a eu après le Bastion Social qui a essayé de créer un squat d'extrême droite à Lyon, important sur le modèle de la Casa Pound à Rome en Italie. Ensuite, il y a eu les Remparts, ensuite il y a eu Lyon Populaire, et on sait que le jeune Quentin évoluait dans cet univers-là. Il était proche d'un groupe qui s'appelait Audace Lyon, il avait été membre de l'Action Française, il collaborait à un groupe qui s'appelait l'Academia Christiana, qui est un groupe plutôt catholique, traditionnaliste, mais assez dur, sur des positions très dures, assez violente, et il faisait partie d'un groupe qui s'appelait il évoluait dans la mouvance d'un groupe appelé les Allobroges de Bourgoin-Jallieu, vous voyez, pour être précis.
Alors justement, quand on entend cela, les politiques aujourd'hui, d'un bord et de l'autre, disent, se renvoient la balle de la violence. Lorsque, hier matin, à ce même micro, je recevais le député LFI Paul Vanier, qui osait quand même dire que LFI n'avait pas de lien avec...
Oui, c'est comique, ça.
C'est effectivement, a posteriori, assez tragique même, en plus d'être comique. Il disait, la violence politique dans notre pays vient de l'extrême droite. Et Marion Maréchal, un peu plus tard, dans le face-à-face, dit, la violence politique vient d'extrême gauche, et la violence d'extrême droite est dérisoire. Au fond, qui dit vrai ?
La violence vient des deux côtés. Il y a autant de violence d'un côté que de l'autre. Là, nous parlons de petits groupes activistes qui se battent de façon un peu absurde, finalement, parce qu'ils ne font progresser aucunement leur cause respective. Et cette violence, pour moi, elle est de même niveau d'un côté comme de l'autre. Juste avant la mort de Quentin, il y a eu une rixe entre des groupes dans les rues de Lyon, ce qu'on a pu voir sur des vidéos. Bah, c'est typiquement des rixes qui arrivent, mais extrêmement souvent. On est là face à quelque chose de voilà. Maintenant, quelqu'un est mort. Et donc là, il faut quand même se poser des questions.
Et là, niveau, effectivement, est-ce qu'il y aura ce mea culpa? Pour l'instant, on ne l'entend absolument pas. Mais ça sera intéressant aussi de voir LFI. Je voudrais qu'on accueille Bertrand, qui nous a appelé au 32-16 et qui nous appelle des Pyrénées Atlantiques. Bonjour Bertrand.
Bonjour Apolline.
Bertrand, vous êtes infirmier. Vous vouliez réagir aussi à la minute de silence qui a eu lieu hier à la mémoire donc de Quentin.
Oui, moi ça m'a un peu révolté en fait. Qu'on fasse une minute de silence pour un gamin, comme votre intervenant vient de le dire, qui appartient à des mouvances d'extrême droite. Je sais pas, on est dans une libéralisation de la violence et j'ai l'impression que là, voilà, on a fêté la violence, on a fait une minute de silence à la violence.
Il est mort, hein?
Oui, non, mais ça j'entends bien. Alors ça, attention, hein, c'est très triste ce qui est arrivé.
Ça vous a révolté.
Ça m'a révolté parce que je pense qu'on aurait pu faire des minutes de silence pour le frère Kessassi, par exemple, qui se bat pour des bonnes causes. Là, ce gamin, je suis désolé, il fait partie des mouvances et il accepte le risque de ces rixes, comme vient de le dire votre intervenant, parce que il y a beaucoup de rixes.
Vous estimez que c'était pas le rôle de cette minute de silence ?
Vraiment pas
je voudrais que Christophe Bourseiller puisse vous répondre.
C'est pas parce qu'on est d'extrême droite qu'on doit mourir. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes idées que quelqu'un d'autre qu'il doit mourir. On est en démocratie et j'ai trouvé personnellement assez bien et plutôt digne le fait de voir des partis de gauche se lever pour la minute de silence pour ce jeune homme, parce que c'est quelqu'un qui est mort et c'est quand même quelque chose de très inquiétant sur la polarisation extrême de la société française et notamment du monde politique. Il y a quand même depuis maintenant le début des années 2000 une remontée de la violence politique en France qui est très frappante et une radicalisation. Et donc là, je pense que c'est, il est bien qu'il y ait eu cette minute de silence.
Et je précise d'ailleurs que Raphaël Arnaud n'était pas présent dans l'hémicycle pour cette minute de silence. Merci beaucoup. Merci Bertrand pour votre réaction et merci pour vos explications, Christophe Bourseiller. Vous êtes historien, président de l'Observatoire des extrémismes et votre dernier livre, c'est Les Le Pen, une famille française aux éditions Perrin. Ça a été donc publié l'année dernière. Il est 7h50 sur RMC. Et dans un instant, comme chaque mercredi, c'est la voix de droite sur RMC. Jérôme Lavrieux est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Ancien député député UMP. On en parlait à l'instant, l'irruption de la violence en politique. Et bien pour vous, ça vient polluer la campagne des municipales.
Oui, parce que les extrêmes ont tout intérêt à nous voler la campagne des élections municipales. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes.
Vous nous le dites dans un instant. Restez bien avec nous, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec Harry Potter qui s'invite à Versailles.
Oui, à Versailles, pour les 25 ans d'Harry Potter, on va aller à l'école des petits sorciers, mais dans les jardins du château de Versailles, le quart de siècle de la saga cinéma. Une rencontre des deux mondes, retour à Poudlard, c'est un événement organisé par Warner chaque année pour les fans. Au château et dans les jardins, les fans pourront vivre à la fin des vacances scolaires le 29 août, cette journée exceptionnelle. Alors, notez bien qu'à ce stade, aucune information concernant les modalités d'inscription n'a été communiquée, mais il faudra bien s'inscrire et pour cause. L'événement sera gratuit l'après-midi, les jardins de l'Orangerie aux couleurs d'Harry Potter, des animations inspirées de la saga, bannières, accessoires, photos, mise en scène, animations inspirées de la magie, avec des défis, des jeux, et puis, dans un deuxième temps, la soirée avec un spectacle des grandes eaux nocturnes, revisité, version spéciale Harry Potter, fontaine, lumière, musique et drone, hommage au premier film sorti en 2001.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est la voix de droite. Bonjour Jérôme Lavrieux. Jérôme, vous êtes ancien député européen UMP. Le premier tour des municipales, c'est dans moins d'un mois. Mmh. C'est le 15 mars. Et avec le drame de Lyon, où un jeune homme de 23 ans a été tué, au fond, vous vous dites que la campagne des municipales, elle est éclipsée par cette violence.
Oui, on est en train de se faire voler la campagne des élections municipales. Pourquoi ? Parce qu'on parle de politique nationale, on parle de violence, et à juste titre, et on parle de polarisation gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite. On parle de la jeune garde, des partis nationaux, des procès, pour certains partis extrêmes, mais on ne parle pas de la campagne et des enjeux municipaux.
Et en même temps, c'est le drame de l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, vous avez l'impression qu'on en fait un enjeu national au lieu d'un enjeu local ?
On a raison de le faire. Parce que c'est un événement extraordinaire qui vient de se passer. Mais on doit aussi voir que les 6 ans qui viennent vont être impactés par la campagne des élections municipales pour le quotidien de nos concitoyens. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater qu'il y a 2 élections que les Français aiment. La présidentielle et les municipales. On a eu une campagne présidentielle totalement escamotée. On en voit les dégâts aujourd'hui. Et je crains que si on a une campagne municipale qui ne se fait pas sur le terrain, eh bien les gens votent pour n'importe quoi et pour n'importe quoi.
C'est presque l'intérêt des extrêmes de ne pas trop parler des municipales.
Mais carrément. LFI, c'est son intérêt qu'on n'en parle pas. Ils n'ont pas de candidat. Le Rassemblement National, c'est son intérêt qu'on n'en parle pas. Ils n'ont pas de programme. Donc ils ont peur que ça se voit, que les Français s'en rendent compte. Et le parti macroniste, lui, il n'a pas d'implantation locale. Donc il fait l'impasse carrément sur ses élections.
Donc finalement, dans ce contexte, il n'y a que la droite qui peut sauver les meubles éventuellement ?
Oui, parce qu'ils ont un précédent. LR, en 2014, ils ont tout gagné aux élections municipales, 2 ans après avoir tout perdu, la présidentielle et le reste. Alors si être dans les choux au niveau national, si être sans leader, si être divisé entre chapeau à plume sont des gages de succès au municipal, eh bien gageons que la droite devrait remporter de belles victoires en mars.
C'est pour de bien belles raisons alors.
Oui, mais c'est mieux de voter pour un programme que pour des mauvaises raisons.
Merci beaucoup Jérôme Lavrieux, la voix de droite donc sur RMC, chroniqueur chez Estelle Midi. Vous y serez tout à l'heure ?
Oui,
à alors midi. On vous retrouve à midi tout à l'heure sur RMC chez Estelle Midi. Demain, ce sera place à la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h55 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le journal de 8h bien sûr. C'est 9 interpellations dont l'assistant parlementaire d'un député LFI après le lynchage de Quentin Derenck. Nous serons en direct de Lyon dès le début du journal. La porte-parole du gouvernement gouvernement demande à LFI de suspendre son député Raphaël Arnaud. On y reviendra. La météo, c'est encore de la pluie et des crues. 4 départements qui sont en vigilance rouge. Et puis juste après le journal, ce sera l'économie avec Emmanuel Lechypre. Coup de pression sur les indemnités chômage. Il nous explique tout. Il est 7h56. Restez bien avec nous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.